Jacques Michaud pour cette seconde partie de ce Radio Barque. On a vu dans une première votre, si je puis dire, si vous me permettez cette expression, votre haut fait d'armes qui a consisté à faire revenir à Narbonne le dernier archevêque de son histoire, Monseigneur Dillon. Mais à un petit peu plus tard, en tout cas à l'époque contemporaine, il s'est fait à Narbonne, il y a quelques années qu'il est ouvert, mais c'est tout récent, un musée de la romanité qui était dans l'air, lui, alors, pas depuis des siècles, mais en tout cas depuis des décennies. Alors là encore, il se trouve qu'à la faculté de Montpellier, vous étiez collègue de Georges Frêche, qui fut maire et qu'on ne présente plus, qui fut maire et président de région, et qui finalement est aujourd'hui celui qui a permis la réalisation de ce musée. Là encore, vous nous l'avez déjà expliqué sur cette antenne, mais en quelques mots, comment ça s'est passé, la genèse de ce musée ?
Eh bien, c'était au lendemain de l'agrégation de droit romain que venait de réussir brillamment Georges Frêche, qui fut nommé à Montpellier.
Donc il était tout frais et moulu, en quelque sorte.
Ah oui, tout à fait. Et il me dit, j'ai envie de connaître ta ville, car c'est la capitale de la Gaule. Mais j'ai dit, ça alors, je le sais. Alors, je veux connaître ta ville. Alors, j'ai invité Frêche un dimanche d'octobre, qui est venu avec son épouse, et nous avons passé la journée à visiter Narbonne, et à l'après-midi, nous arrivons au musée Lamourguier, et je me souviendrai toujours de son grand cri, quand on a vu cette tasse de pierre, toutes ces pierres. Il m'a dit, mais vous êtes des ploucs, mais vous laissez ça comme ça. Moi, si j'étais maire, tu vois, je ferais un grand musée, mais les élus, ils font rien. Alors moi, je ferais un grand musée.
Il n'était pas encore maire de Montpellier à l'époque.
Il n'était pas encore maire, il n'était pas élu du tout. Il arrivait jeune, le professeur Frémoulu. C'est quelques mois après, il a commencé les manœuvres pour la grande échelle qu'il a conduit en haut de la région. Et 30 ans après tout ça, il me téléphone, je dis, Jacques, il venait d'être élu président de Rio, il me dit, on se le fait ce musée. Il me dit, bon, mais va chercher Bascou et dis-lui que demain, il faut qu'on soit dans mon bureau et qu'on signe une convention. On prend les collections, vous gardez la propriété, nous les restaurons, on les présente. Je suis allé chercher Jacques Bascou, qui ne s'est pas fait répéter deux fois, et nous avons couru le lendemain. Nous étions à l'heure audite dans le bureau de Georges Frêche, et c'est parti de là.
Voilà. Là encore, un moment d'histoire pour oui. La ville de Narbonne. Alors, le défi n'était pas mince, parce que Lamourguier, pour ceux qui s'en souviennent, c'était un alignement de pierres, un stock finalement, mais ça n'avait rien de très pédagogique et encore moins de muséal.
Oui, mais Lamourguier, c'est une histoire étonnante de sauvegarde,
oui, de sauvegarde
patrimoine. Voilà, c'est ça, mais pas comme musée. La commission archéologique qui venait d'être créée en 1833 s'est intéressée à ça très vite, parce que voilà qu'on a déclassé les remparts de Narbonne à la fin du règne de Napoléon III, et que dans les années 70 et suivantes, pendant 1870, je suis pas chronologique. Alors, les remparts étaient constitués en grande partie des pierres romaines et contenaient
en réemploi.
C'est l'histoire de Narbonne, c'est l'histoire d'un immense réemploi. On ne voit plus les monuments à Narbonne, mais nous les avons, si j'ose dire, dans la viande là. Ils sont là, nous les avons à l'intérieur. Alors, les gens de la commission archéologique, pendant 10 ans, ont promené, arraché ces pierres, essayant de les sauver, et ils avaient obtenu la permission de la ville, à l'époque, d'utiliser l'église Lamourguier, ancienne église désaffectée. Et c'est que, pendant 10 ans, on a trimballé des pierres d'un côté et de l'autre. Et ça donnait un entassement, évidemment, qui était très romantique, d'ailleurs, mais qui, évidemment, n'était pas très commode, parce que ces pierres, c'est des tonnes et des tonnes, et c'est très lourd. Et c'était assez spectaculaire en soi. Mais pour l'étude, ça n'était pas très commode. Et c'était pourtant une collection d'une grande richesse, parce que ça contient tous les écrits de l'Antiquité narbonnaise. Et c'est l'épigraphie est une, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une des collections, c'est une des plus riches de France. Voilà. Alors Narbonne n'est pas monumentale à l'extérieur, mais elle avait tous ces monuments-là en devenir. Voilà.
Ouais. Et alors justement, c'était un défi, parce que comment concevoir un musée avec des pierres et des pierres ?
Alors, la question a été très débattue. Donc, ça s'est mis en marche peu à peu, ça a traîné longtemps cette affaire. Ça a été très long. D'abord, il a fallu faire un inventaire de toutes les richesses archéologiques et romaines de Narbonne. C'est l'équipe de l'école laïque de Carcassonne, l'association de l'école laïque, qui a fait ce travail, qui a duré des mois. Ça a été très très long recollement, et ça a abouti à plus de 24 volumes in-folio d'inventaire. de façon à ce que tout ceci soit reconnu comme propriété de la ville de Narbonne, qui en garde la propriété, et confié à la région, qui elle, sous réserve qu'elle fasse un grand musée et qu'elle restaure ses pierres. Ça a été la première chose. Ensuite, il a fallu trouver un emplacement, et finalement, c'est arrêté au terrain actuel, qui offre bien des avantages, même s'il est parfois inondable. Ça a permis d'ailleurs de modifier la structure du terrain. Et puis ensuite, il a fallu voir l'architecte. On a trouvé un architecte, et après un concours qui a amené plus de 41 candidats, ça a été des jurys très difficiles, nous avons participé à tout ça, à Montpellier, on a fini par choisir le grand architecte du pont de Millau, les viaducs de Millau, n'est-ce pas, Foster. Sir Foster, il était déjà Sir, maintenant il est Lord Foster, mais effectivement c'est un grand architecte. Il s'est passionné pour Narbonne. Même s'il n'y est venu que le jour de l'inauguration. Mais il avait des photos, des renseignements, des plans, et il a eu une grande vision du musée. C'est lui qui a créé donc ce bâtiment, qui nous a dessiné ce bâtiment.
Voilà. En sachant très bien ce qu'il avait à sa disposition.
Voilà, et il savait qu'il fallait là-dedans notamment présenter des pierres, pour répondre à ta question, présenter des grandes pierres éparses. Et c'est comme ça que s'est conçue la grande galerie transversale, la colonne vertébrale du musée.
Mur,
voilà. Et on a évoqué le rempart. On a fait un mur, mais cette fois-ci un mur pédagogique. Et on remarquera qu'il y a un fossé devant, il y a des escaliers, des marches, et on peut s'asseoir pour regarder les pierres. Et elles sont une bibliothèque, mais plus visible qu'une bibliothèque. Elles sont alignées sur des remparts. Et la présentation est tout à fait unique. Parce que ce sont des blocs très lourds, et ces blocs, vous pouvez les avoir à votre disposition si vous voulez les avoir. Il y a deux rangées, l'une tournée vers le public, l'autre, les pierres un peu moins importantes, vers l'intérieur. Et entre les deux, il y a un rail où circule un appareil qui permet d'aller récupérer les pierres, comme avec une pelle à gâteau.
Oui, un transtocker, ils appellent ça, je crois.
C'est ça, voilà, c'est ça. Alors, il y a une espèce de panneau sur lequel on peut appuyer. Alors, on choisit et on peut vous amener la pierre. Elle est soulevée et ramenée. On promène ça comme une boîte à chaussures, alors que chaque pierre pèse je ne sais combien de kilos. C'est absolument invraisemblable. Et l'ensemble, tout d'un coup, amène une véritable renaissance des figures. Tout ça a été nettoyé, éclairci, dépoussiéré, et évidemment, ce magma informe est devenu quelque chose de séduisant et de fascinant. Alors, au pied cette grande muraille, ce rempart restauré et revigoré, il y a des panneaux, il y a des pupitres, des grands pupitres, où l'on projette, informatisé, les photos de ces, et c'est tactile, il suffit de toucher la photo de chaque pierre que l'on voit, et cette photo vous apparaît grandie, et avec, en note, à côté, l'historique et l'intérêt de chaque pierre.
Oui, donc la technologie moderne, là, évidemment,
absolument,
est mise à
total.
Contribution.
Et ça bouleverse tous les gens qui viennent.
Y compris pour les explications et pour le transport, le transstockage.
Tout y est. Voilà, avec l'explication du rôle de la commission archéologique qui a sauvé ces pierres. Et aussi, tout cela n'est pas fini, parce qu'on n'a pas encore présenté chaque pierre en détail. On ne peut avoir que certaines. Et bien, ça, bientôt, quand l'équipe qui travaille sur place, si bien d'ailleurs, quand ils auront fini ce travail, les gens verront chacune des pierres. Et les chercheurs peuvent même faire qu'on les ramène sur place. Voilà. Mais l'écran tactile suffit largement, parce qu'on peut même tourner, on voit la pierre à l'envers. On voit s'il y a une rouerie à l'envers. Vous voyez, on la voit à l'envers. Et c'est quelque chose où on y resterait des heures. Et ça enchante les jeunes. Et ça donne. Alors là, on retrouve le Narbonne monumental. Là,
vous avez, et on y comprend quelque chose.
Ah oui, là, c'est sûr. Là, on y comprend quelque chose, oui. Et ensuite, on a, évidemment, on utilise d'autres. Toutes les pierres ne sont pas dans cette grande galerie qui fait 75 mètres de long et qui débouche d'un côté sur la vision du stade et de l'autre côté sur le canal de la Robine. Mais d'autres pierres ont été utilisées plus spécifiquement pour constituer les tranches d'histoire de Narbonne.
Oui, il y en a qui sont plus significatifs.
Voilà, et ça finit par Narbonne paléochrétienne, et ça commence par les pierres les plus anciennes qui datent de l'époque de la fondation. Voilà.
Et alors vous, Jacques Michaud, vous êtes ce qu'on appelle président du conseil scientifique de ce musée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce conseil ?
Alors, c'est mon premier adoubement. Je m'a dit, tu vas constituer un conseil scientifique, tu es président, tu mets qui tu veux, et vous allez travailler à ce musée. Voilà. Alors, ce conseil scientifique...
C'était l'équipe de base pour élaborer le musée.
C'est ça. Ce conseil scientifique, on l'a réuni rapidement pour discuter, et il y a eu de très longs débats. Et à ce moment-là, on n'était pas encore, le musée n'était pas commencé. Ça s'est passé à la maison actuelle de la région, ainsi à l'immeuble Babou, on vend déjà des meubles lorsque j'étais enfant. Et c'est là que, pendant des semaines et des mois, une réunion s'est tenue avec les uns et les autres pour commencer à imaginer le plan, les thèmes du musée, comment on allait l'utiliser, etc. Et puis ensuite, les architectes ont donné leurs possibilités, et puis peu à peu, on a fait des choix, notamment le choix de cette grande muraille sur métal qui était très difficile à réaliser, et on a choisi toute la thématique. On a choisi d'abord la chronologie. On part de la fondation de la colonie de Narbonne, la première horde d'Italie en 118 avant Jésus-Christ, et ça termine au 5e siècle lors de la mort de l'évêque Saint Rusticus, qui, fort curieusement, est enterré à quelques pas de là, à côté entre le théâtre et le musée. Il y a une espèce d'ancienne grange.
Oui, derrière le théâtre.
Voilà, que la ville de Narbonne a fait vite restaurer lorsqu'on a signalé les choses à l'époque. Et c'est là que se trouve la chapelle Saint-Loup, où est enterré Rusticus, lequel Rusticus a été un des premiers à réutiliser, à réemploi les pierres romaines, mais cette fois-ci pour faire les cathédrales de la nouvelle religion qui avait peu à peu supplanté le paganisme. Voilà. Alors c'est tout à fait symbolique là aussi. Il y a comme ça des coïncidences. Jean Cocteau disait qu'il n'y a pas de hasard, que le hasard est un alibi de Dieu, mais enfin, effectivement, il y a quelque chose qui nous tracasse. Voilà.
Alors, il y a encore matière à réflexion pour l'avenir. Et alors, Jacques Michaud, dans ce conseil, aujourd'hui, il y figure des gens, par exemple, du musée du Louvre, d'autres musées régionaux, d'Arles, d'Agde, de Nîmes, ce qui est assez logique, mais par exemple, le Louvre, pourquoi quelqu'un du Louvre siège? Qu'est-ce que ça apporte, en quelque sorte?
Alors, d'abord, je voudrais rendre un premier hommage. Avant de poursuivre, je voudrais rendre hommage à Michel Guéraud, qui nous a quittés il y a peu de temps, le doyen Michel Guéraud, sur les travaux duquel nous sommes appuyés pour définir le musée. La thèse de Michel Guéraud sur Narbonne antique est extraordinaire. Il mériterait, lui, d'avoir une rue quelque part, parce que c'était le grand historien de Narbonne. Il a été le premier membre du conseil scientifique que je suis allé chercher. Alors actuellement, nous avons plusieurs catégories. Il y a les catégories de nationales et internationales. Il y a un conservateur du musée de Rome. Il y a quelqu'un du musée du Louvre. Ça, c'était énorme. Et puis, nous avons quelqu'un d'Espagne. Qui vient du musée d'Ampurias, parce que c'est le plus proche, que nous allons faire bientôt une exposition sur les ports. Alors, donc, on a élargi vers l'Espagne. Mais cet aspect international, on pourra en reparler si vous voulez. Et c'est un avenir du musée qui est très important. Pour ce qui est du Louvre, ces gens-là, nous les avons pris parce que Narbonne a été classée parmi les musées de France. Musée de France, c'est une collection très importante, d'intérêt national, donc il fallait qu'il y ait un lien avec les grands musées. Et notamment le Louvre nous a prêté deux beaux bustes, nous a mis en dépôt deux bustes de marbre somptueux, un qui représente l'empereur Caracalla, celui qui en 212 a donné la citoyenneté romaine à tous les gens de l'Empire, ou presque, et l'autre représente Lucius Verus, un empereur romain aussi très beau, c'est des belles statues, l'empereur était certainement beau, parce que toutes les dames s'arrêtent à la statue. Voilà, et alors donc on a des liens avec le musée national du Louvre, c'est normal. Voilà. Et avec Rome, ça va être de plus en plus important, puisqu'on a une politique romaine en vue, à tous les niveaux d'ailleurs. Voilà, même viticole. Voilà. Donc, alors, et ensuite, vous avez les conservateurs des musées voisins, et là, on a voulu reconstituer la chaîne d'abord avec Nîmes, avec qui nous avons une excellente relation. Il n'y a aucune rivalité, parce que Nîmes a de très belles pièces que nous n'avons pas. Mais Narbonne a une grande histoire que Nîmes n'a pas. Donc, on se complète, et le conservateur du musée de Nîmes fait partie de la conservation du musée de Narbonne. Nous avons pris Arles, nous avons pris en Brussomme, Agde aussi, la ville d'Agde, etc., etc., et Toulouse, évidemment, où nous avons récupéré l'ancienne conservatrice du palais des archevêques qui a des belles collections romaines au musée Saint-Raymond à Toulouse.
Bien, sur ce sur cette présentation de quelques éléments seulement de ce conseil scientifique, parce que vous êtes une vingtaine, une bonne vingtaine, je crois.
Oui.
On marque une première pause, une seconde pause, Jacques Michaud. On se retrouve pour une troisième partie où, sur le plan personnel notamment, vous avez encore beaucoup de choses à dire.